Ziva sur Radio Esperanza. L'émission des jeunes. Tous les jours de 16h à 17h. Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième journée de Ziva. Alors nous retrouvons autour de la table
Émilie,
Elliot,
Sébastien
et Isabelle.
Donc vous venez d'une ASBL qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle ATD Carmonde, donc aide à toute détresse et qui existe.
Non, Agirteuse pour la dignité. Aide à toute détresse, c'était avant 2009 en fait.
Okay. Sébastien me corrige. Donc c'est quoi du coup ?
Agirteuse pour la dignité.
Voilà.
Ouais. Et donc je peux peut-être en dire plus sur l'association.
Oui.
Donc ATD Carmonde, c'est une association, enfin on se définit plus comme un mouvement international parce qu'on est présent dans presque 40 pays aujourd'hui, qui rassemble des gens de tous les milieux qui ont décidé d'agir pour éradiquer la misère. Voilà, avec des gens qui la vivent et à partir de l'accès de tous aux droits fondamentaux. Par exemple, voilà, le droit à un logement décent, le droit à un travail décent, le droit de vivre en famille, le droit à la culture, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit d'aller visiter un musée, d'être ouvert à la lecture, à l'art en général. Donc voilà.
Donc, vous êtes situé au village du Possible, c'est bien cela ?
C'est ça, oui. Donc, nous, on est juste en face de la grande porte où tout le monde passe. C'est un emplacement génial. Venez, venez.
Donc, est-ce que vous organisez, qu'organisez-vous pour ce festival-ci cette année ?
Ouais, alors du coup, pour le festival, on a d'abord eu plusieurs jours de préparation avec les militants, donc les personnes qui vivent directement la pauvreté, et les alliés, les volontaires. Et du coup, là, on a eu ces 4 jours de préparation où on a essayé de mettre en lien la thématique donc d'Esperanza, en lien aussi avec la précarité et la pauvreté, du coup. Et donc, on a plusieurs chouettes activités. Donc, on a d'abord quelques questions un peu cash et qui suscitent le débat, donc toujours en lien avec la précarité et les dominations. Et ensuite, on a aussi fait une roue où en fonction de ce sur quoi les gens tombent, il y a plusieurs choses qui les attendent. Donc il y a la fabrique des stéréotypes, donc c'est des petites phrases qu'on soumet aux personnes et on essaye de discuter avec elles sur ce qu'elles en pensent et ce qu'elles ont à en dire aussi, toujours en lien avec la précarité. Et puis on a aussi des questions quiz avec des statistiques et on a aussi des capsules vidéo qu'on a enregistrées sur plusieurs thématiques où les militants se sont exprimés. Et puis on a notre question, c'est quoi encore le nom spécifique ?
Donc pourquoi est-ce que tu essayes de changer l'homme alors que tu vois bien que ça marche pas ?
Voilà, donc ça c'est une question aussi un peu cash, mais où il faut pas la prendre directement personnellement, c'est plus pour pouvoir discuter de la thématique et que chacun puisse donner son avis.
Il y a d'ailleurs des gens qui nous répondent, si ça marche.
Et qu'est-ce que vous faites comme activité hors festival ?
On a des groupes locaux, spécifiquement en Belgique, en tout cas. Enfin, il y a d'autres groupes locaux ailleurs dans d'autres pays. Mais on fonctionne par groupes locaux, où il y a des personnes qui s'engagent dans leur quartier, dans leur milieu, parfois sur leur lieu de travail, et qui rassemblent des personnes qui vivent des conditions, enfin, qui vivent des choses très dures, toujours dans la grande précarité ou qui sont très exclus. En les rassemblant, ce qu'on vise, c'est que par exemple, au sein de ces groupes locaux, ils agissent dans leur commune, dans leur quartier, pour justement faire que ces personnes, elles créent un réseau autour d'eux. Par exemple, à Molenbeek, à Saint-Gilles, aussi à Charleroi récemment, à Schaerbeek, il y a ce qu'on appelle des bibliothèques de rue. Donc, en fait, à travers la lecture, donc on est sur l'espace public, on vient avec des livres et on propose aux enfants de lire des histoires.
Voilà.
Et à travers cette action, on vise aussi que les personnes qui sont très éloignées de la lecture, qui n'ont même pas parfois des livres chez eux, créent du lien dans le quartier parce qu'à travers ces familles, ils se rencontrent et ils sont moins exclus. Il y a un réseau autour d'eux Et c'est ce qu'on vise, par exemple.
Et puis, on a aussi les cellules.
Oui.
Donc, en gros, en Belgique, on a plusieurs cellules. Donc, par exemple, il y en a aussi, comme tu dis, à Saint-Gilles, à Bruxelles. Il y en a aussi une à Charleroi, dans le Hainaut, dans d'autres endroits. Où donc, c'est des personnes qui sont donc, au sein d'ATD, qui se rassemblent. Et dans le but vraiment d'essayer de rapporter la parole des personnes qui sont en situation de précarité. Donc, on discute de différentes thématiques, plus ou moins tous les 3 mois. Donc, par exemple, là, on a discuté du logement, on a parlé de l'enseignement avec le pacte d'excellence. Et donc, c'est vraiment l'idée de rapporter la parole des personnes qui vivent directement la pauvreté et des situations difficiles, comme l'a dit Sébastien, pour après essayer d'en faire quelque chose et d'essayer d'être un genre de plaidoyer politique. Donc essayer, par exemple, après les différentes réunions qu'on a eues au sein de la cellule, il y a une université populaire qui se fait, où toutes les cellules se rencontrent, et où là on essaye de rencontrer par exemple un ministre en lien avec la thématique, pour vraiment essayer de lui faire part de ce qu'on a remarqué, de toutes ces choses qui sont hyper importantes à dire. Donc un peu dans l'idée d'être dans le croisement du savoir, où on est dans de l'expérimental et on se sert des expériences pour essayer de faire changer les choses.
Voilà. Et vous êtes plus ou moins combien ?
Il y a plusieurs centaines de militants, donc des gens qui vivent la pauvreté, on les appelle les militants parce qu'on estime que, c'est pas une estimation, c'est comme ça, c'est eux qui luttent au jour le jour contre la pauvreté. Donc c'est eux les experts de leur propre situation, et en fait l'idée c'est que si on veut que les choses changent, si on veut que la misère et la pauvreté elles disparaissent, il faut leur demander leur avis à eux qui vivent la pauvreté, et donc voilà. Autour d'eux il y a aussi des centaines d'alliés en Belgique, j'ai pas les chiffres précis en tête, mais on est des centaines et puis probablement des milliers au total.
Dans tout le mouvement, dans tout le monde entier.
Donc il y a parmi nous, donc les militants, c'est les personnes qui vivent la pauvreté ou qui ont eu l'expérience de la pauvreté. Il y a des alliés qui ont décidé d'agir avec nous vraiment concrètement dans leur milieu où ils travaillent dans leur quartier. Il y a aussi ce qu'on appelle des amis qui nous donnent un coup de main de temps en temps.
Et les volontaires aussi.
C'est ça, et les volontaires qui ont vraiment à 100% décidé de se consacrer à l'association, et parfois qui changent de pays tous les 3 à 5 ans pour vraiment d'abord connaître la situation de la pauvreté, ce que c'est que de vivre dans la pauvreté dans son pays d'origine, et puis partir ailleurs pour voir les points entre guillemets similaires et aussi les grandes différences qu'il y a entre les pays.
Vous agissez dans quel pays principalement ?
Je crois qu'il y a 17 pays dans lesquels on est présent en Europe. Il y a par exemple en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en Bulgarie. Il y a une équipe qui est là depuis un an et demi, en Italie. Ça c'est pour l'Europe. Après, on est présent en Afrique. Je ne vais pas les citer tous, mais on est présent aussi en Asie. Il y a une équipe aux Philippines. Mais j'avoue que comme le mouvement est né en France, en région parisienne, dans un bidonville, c'est des familles d'un bidonville qui ont créé le mouvement ATD Quart-Monde, donc des gens qui ont vécu la pauvreté, j'ai perdu le fil. Le mouvement est très présent en France, mais vraiment l'idée, c'est pour ça qu'on a choisi de s'appeler un mouvement international, c'est vraiment ce qu'on est, c'est qu'on a envie que ça fasse effet boule de neige et qu'on s'étende, qu'on rassemble des personnes qui veulent s'engager contre la misère ailleurs, quoi.
Et donc, pour les jeunes, à part les bibliothèques de rue, que proposez-vous également ?
En Belgique, donc, il y a aussi un groupe jeune qui travaille avec des personnes qui ont moins de 30 ans. Où les jeunes témoignent de leur situation, mais d'une façon un peu plus adaptée. C'est eux qui choisissent ce qu'ils font déjà. Par exemple, on fait du théâtre forum. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le théâtre forum. Mmh. Donc, on dépeint une situation. On choisit par le théâtre de décrire une situation un peu difficile, parfois horrible, je dirais même, dans un milieu scolaire, par exemple. Et c'est au public d'interpréter un des personnages qui sont dans la pièce pour changer la situation qui est très difficile. Voilà. C'est une manière qu'ils ont de travailler. Parfois, ils viennent témoigner à notre université populaire quand on traite des sujets qui vraiment touchent les jeunes. Et c'est encore une fois des personnes qui vivent la précarité principalement qui participent à ce groupe. Et aussi d'autres personnes, évidemment, qui s'engagent avec eux, quoi.
D'accord. Et donc, à part ça, vous... Dans le thème d'Esperanza, vous avez choisi le genre dans la précarité. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des stéréotypes ou des préjugés fort marqués dans les milieux précaires?
Nous, ce qu'on a choisi, par exemple, de travailler, c'est ces stéréotypes qui vont... qui seront encore plus violents si on a affaire à des personnes qui vivent dans la misère. Voilà.
Ouais, qui parfois seront encore plus forts et encore plus présents et donc encore plus difficiles. Et donc c'est pour ça que dans notre rôle à la fabrique des stéréotypes, on a vraiment essayé de reprendre la parole des militants pendant ces 4 jours de préparation pour vraiment avoir leur parole à eux et qu'elles puissent avoir un sens sur le festival et qu'eux puissent parler d'eux aussi. Donc ça, c'était super, super important d'avoir leur parole à eux. Et on a vraiment eu des moments très, très intéressants où beaucoup de choses se sont dites et où c'était vraiment super chouette, quoi.
On va se passer un petit morceau de musique. Donc, je vous propose de passer Believer de Imagine Dragons.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Donc, nous sommes toujours en compagnie de l'association ATD Guermonde. Donc, la chanson était Believer de Imagine Dragons. Donc, nous allons continuer la discussion si quelqu'un a une question pour continuer.
Moi, j'aimerais vous demander comment vous avez rassemblé autant de personnes pour faire tout ce groupe, enfin, cette association.
Ok. En fait, je dirais qu'il y a deux façons. Après, ça peut être aussi des choses un peu... Il y a des situations très, très différentes, mais je dirais que... Enfin, en tout cas, j'ai envie de témoigner de deux choses. C'est souvent des personnes qui vivent la pauvreté déjà dans leur milieu, qui connaissent des gens qui pourraient aussi aimer... Enfin, en tout cas, qui cherchent à témoigner de leur situation et que leurs paroles soient entendues. Et donc, on a ce qu'on appelle des militants, donc des personnes soit qui vivent la pauvreté, soit qui ont vécu la pauvreté, qui demandent à leurs connaissances de venir à une de nos réunions. Et c'est totalement libre. Enfin, tout le monde est le bienvenu, évidemment. Et la deuxième, situation, on a donc des alliés, des personnes qui agissent dans leur milieu, dans leur quartier ou dans leur milieu professionnel, qui posent des questions qu'on a travaillées en réunion et qui aussi disent ce qu'ils ont entendu comme témoignage de personnes qui vivent la pauvreté. Et puis au bout d'un mois, deux mois, trois mois, parfois six mois, on pose la question, voilà, on a fait l'intermédiaire, tu as des choses manifestement à dire sur plein de sujets aussi, est-ce que tu ne veux pas te joindre à une de nos réunions? Donc c'est vraiment une personne à la fois. Oui.
Que proposez-vous pour les plus de 30 ans?
Donc il y a à la fois les réunions de groupes locaux où on discute un peu des sujets qui sont traités à l'université populaire, que les personnes qui vivent la pauvreté et les groupes locaux choisissent chaque année d'ailleurs. Donc tous les ans, on choisit les thèmes qu'on va aborder pendant un an. Et aussi, il y a pour les personnes qui ont une certaine expérience dans le mouvement ATD Quart-Monde, on a le service de lutte contre la pauvreté, donc il y a des personnes qui vivent la pauvreté qui sont invitées au sein de ce service pour témoigner de leur situation et pour émettre des recommandations politiques, par exemple.
Et comment vous avez créé toute cette association, et ce groupe?
Je ne m'y connais pas hyper bien, mais en tout cas de ce que je sais, de ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au départ, ça a été créé tout près de Paris par le père Joseph Wierinski, qui était un père là-bas dans les bidonvilles à côté de Paris, en fait, où c'était vraiment un bidonville tout à fait exclu du reste du monde, en quelque sorte, et où les gens vivaient vraiment de manière tout à fait cachée, dans des conditions de vie absolument épouvantables, et où on n'était pas tellement conscient de ça, et où ces personnes-là n'avaient pas grand-chose, en tout cas, à dire. Et donc, elles se sont rassemblées, elles se sont collectées, elles ont décidé de changer les choses. Et donc, c'est un peu comme ça que le mouvement ATD Quart-Monde est né. Et donc, toujours avec cette idée de travailler ensemble et de récolter la parole et les revendications des personnes elles-mêmes, et que ce soit elles-mêmes directement qui en fassent part, quoi. Donc, ça, c'est un peu l'idée... L'idée de base, je pense.
Oui, ce que j'aurais envie d'ajouter à ce qu'a dit Isaline, et qui est tout à fait correct, c'est que voilà, effectivement, on a été, le mouvement ATD Quart-Monde a été créé par des personnes qui vivent la pauvreté et qui se sont rendues compte que, dans ce camp, il y avait des œuvres de charité qui distribuaient de la nourriture, des vêtements, et c'était absolument indispensable, hein, dans des situations d'urgence, c'est absolument nécessaire. Mais qui se sont dit, c'est pas suffisant. Donc nous, on va faire autre chose. Et toujours dans l'idée que, recevoir en permanence, ça enferme dans une certaine dépendance. Et que, il faut autre chose pour se sortir de la misère. Ouais. Et donc est née cette idée que, il fallait faire connaître sa situation et surtout... qu'on avait besoin de tout le monde pour éradiquer la misère et qu'il fallait changer le regard de la société sur la pauvreté par ces témoignages. Voilà.
Mais est-ce que vous avez des projets pour pouvoir essayer de faire sortir de la misère les personnes que vous accompagnez?
Je sais pas si on peut vraiment parler de projet. En fait, on n'est pas une association qui va rendre directement des services aux personnes en situation de précarité, comme donner, recevoir. On est plus dans quelque chose de militant et donc dans une certaine mobilisation. Et donc, le travail, c'est vraiment, entre autres, par ces cellules où on essaye de récolter cette parole et ces revendications pour après en faire part plus haut, s'ils veulent bien entendre. Donc ça, c'est vraiment... un peu l'idée, c'est d'être dans quelque chose d'engagé et qui mobilise et qui veut vraiment changer le regard et éradiquer la pauvreté.
Ce service de lutte contre la pauvreté dont on a parlé tout à l'heure, en fait, il a le pouvoir de émettre de changer des politiques au niveau interfédéral, donc à la fois les entités fédérées, la région wallonne, la région la Flandre et la région de Bruxelles-Capitale. Et aussi dans les communes. À travers ce service, ça change les choses en Belgique, parce qu'il y a des gens qui témoignent de leur situation et qui émettent des propositions. Et on a aussi, par exemple à Bruxelles, une représentation à l'Union européenne, parce que l'Union européenne aussi fait des choses qui impactent les gens qui sont dans la misère. Et donc, on estime, à travers notre action, que les gens qui vivent la misère ont le droit... fondamental de donner leur avis sur des choses qui peuvent les impacter. Et on a aussi une représentation à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, le Bureau international du travail, on est dans d'autres, dans des instances internationales. Quoi.
Pour essayer de se faire entendre, du coup.
Et actuellement, qu'avez-vous réussi à changer au niveau fédéral?
Ça, je vais peut-être laisser plus Sébastien.
Récemment, on a intenté une action pour... en fait, il y avait une mesure qui voulait faire en sorte que le Prodéo, les avocats en Prodéo, donc les avocats gratuits, y aient tout de suite, à chaque fois, 20 euros à payer pour se faire défendre par un avocat. Je ne connais pas tellement, parce que je n'ai pas travaillé directement sur ce dossier, les raisons qui ont poussé le gouvernement à émettre cette idée. Mais pour des personnes avec qui on travaille, qui nous disaient, le 15 du mois, j'ai plus d'argent pour me nourrir, 20 euros, c'est une somme. Et on pourrait dire, oui, mais il y a eu des abus. Les gens qui sont dans la misère, ils vont trop souvent voir des avocats, ça ne va pas. Et donc, du coup, c'est pas étonnant pour nous, vu ce dont ils nous témoignent, que les personnes qui sont dans la misère, elles aient besoin d'un avocat plus souvent que les autres. Et donc, on s'est battu et on a obtenu gain de cause pour que cette mesure ne soit pas mise en place. Et une deuxième, peut-être, on a souvent, en tout cas avec d'autres associations, on se bat aussi au niveau des communes, donc des règlements communaux qui cherchent soit à supprimer la mendicité sur leur territoire ou à la gérer. Donc on dit aux personnes qui mendient, de telle heure à telle heure le lundi, vous êtes à tel endroit et si on vous trouve ailleurs, on vous punit, quoi. Alors ça va, il y a des communes qui ont proposé d'incarcérer les mendiants 12 heures. Et on trouvait ça horrible déjà parce que la mendicité, c'est plus un délit en Belgique depuis 1993, et on a d'ailleurs lutté
aussi
pour
grâce
que
à
ça...
TD.
Et d'autres associations, mais on était parmi les associations qui ont lutté contre ça. Et donc à chaque fois qu'il y a une commune qui, en soi, émet un règlement qui est illégal, à ce moment-là, avec d'autres associations, on essaie que ça change.
Oui, parce qu'il y a aussi une part aussi d'un travail assez collectif, où on est beaucoup en contact avec d'autres assos qui sont dans la même optique que nous, et donc c'est un travail aussi collectif avec les autres associations, un peu de réseau avec les organisations qui luttent contre la pauvreté comme nous.
Vous, dans votre cellule, vous avez déjà eu beaucoup de questions à poser au fédéral pour faire changer les règlements qui ont essayé de rentrer en vigueur.
Je sais pas si c'est tellement des questions, c'est plus des des choses dont on témoigne, quoi. C'est plus des témoignages et des choses dont on se rend compte que les militants nous disent et qu'on se dit ok, ça il faut faire quelque chose, il faut le témoigner, il faut en parler plus haut. Et c'est sûr que dans tout ça il y a aussi des questionnements sur des choses parfois aberrantes et où on se questionne beaucoup, quoi.
Je dirais qu'il y a des propositions de loi qui sont injustes ou qui sont contre-productives si le but c'est de d'éradiquer la misère. Et donc là, comme disait Aline, on a la responsabilité d'agir. Quand des militants nous témoignent de choses qui méritent d'être entendues au gouvernement et ailleurs, à ce moment-là, on peut et on doit agir.
Est-ce que vous avez... J'arrive plus à trouver mes mots.
Prends ton temps, t'inquiète.
Bon, le temps que je cherche mes mots, on passe un petit morceau de musique.
Super.
Ça ne vous embête pas. Donc c'est Eye of the Tiger de Survivor. Donc, nous sommes toujours avec l'SBL ATD Carmonde. Donc, le titre du morceau, c'était « Eye of the Tiger » de Survivor. Alors, on avait une petite question à vous poser un peu statistiquement. Combien de... y a-t-il plus de femmes ou d'hommes dans la précarité ?
Alors, moi, je ne connais pas les stats officielles, mais en préparant le thème, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des situations où, effectivement, les femmes sont plus à risque de pauvreté, dans le sens que, par exemple, on sait qu'en Belgique, les familles monoparentales, le risque, donc les familles où il y a donc, un seul parent, en tout cas qui est chef de ménage, sont plus à risque de pauvreté et où dans 80% des cas en Belgique en 2016, c'est une femme qui est chef de ménage. Donc voilà, c'est un des exemples d'ailleurs qu'on témoigne dans notre activité au stand ici d'information.
Dans les quiz, il y a aussi des questions comme ça où on se rend compte par exemple qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont contraintes de travailler à temps partiel, donc pas à temps plein, et qui du coup ont un plus petit salaire et donc sont plus à risque de pauvreté, par exemple au niveau du travail, ou bien le fait qu'actuellement les femmes aujourd'hui pour un même travail, elles ne sont pas payées de la même manière que les hommes, donc ça c'est sûr que ça impacte aussi sur leur précarité.
Mmh. Mais ce dont les personnes qui travaillent avec nous nous ont témoigné, en fait, c'est que... c'est surtout au niveau des stéréotypes en fait qui impactent parfois beaucoup plus les pauvres. Enfin, il y a une personne qui nous disait moi en tant qu'homme, j'ai pas le droit de montrer des faiblesses, et alors que parfois je craque, parfois je vis des trucs horribles et j'ai envie de craquer, et c'est un stéréotype qui quand on vit des choses horribles, on est sur le point de craquer, mais on se dit mais je suis un homme, je peux pas le faire, enfin voilà. Et des femmes qui nous disaient j'aimerais bien prendre soin de moi, hein, parce qu'on dit une femme elle doit prendre soin d'elle, c'est encore un stéréotype, hein, c'est un truc qui est faux, mais même si on en a envie, quand on est pauvre, c'est plus compliqué, quoi.
Ouais, il y a donc, plein de...
On a plus travaillé là-dessus que sur des stats. C'est des choses que les gens ont vécues, et les gens avec qui on travaille peuvent pas nous aider au niveau des statistiques. Mais effectivement, avec notre travail sur le thème d'Esperanza, on a découvert quand même des situations où les femmes sont plus touchées que les hommes. Mais c'est pas pour ça que la vie des hommes n'est pas pris en compte et ne doit pas être pris en compte. Mais c'était intéressant aussi pour nous, en fait. C'était un thème... il a fallu qu'on fouille. C'était très intéressant aussi de faire ça avec des personnes qui vivent la précarité, qui vivent en situation précaire.
Oui, c'était un thème qui était vraiment intéressant, qui n'était pas hyper facile d'emblée à amener. Le féminisme, la domination masculine, c'est parfois un peu des termes qui sont très très intellectualisés, pas hyper accessibles, etc. Et donc voilà. Mais en fait, quand on prend le temps, qu'on donne les bons outils, qu'on écoute, il y a des choses super intéressantes qui se disent, et donc voilà, ça rigole ici, c'est difficile de se concentrer du coup.
Attends. Ouais, mais les bruits bizarres là.
donc voilà, et par exemple, pendant ces réunions de préparation, on a eu un moment, des moments en groupe non mixte, donc juste entre femmes et entre hommes, et donc il y a des choses quant à la beauté et à prendre soin de soi qui nous ont été... rapporté, ou par exemple pour une militante qui n'avait pas d'argent par exemple pour pouvoir refaire ses dents par exemple, que c'était quelque chose de super difficile pour elle de se montrer comme ça, alors qu'il y a cette envie de vouloir prendre soin de soi, mais où en situation précaire c'est encore plus difficile.
Et je me souviens aussi de cette personne, en fait. Il y a eu des hommes et des femmes, hein, mais un homme qui manifestement avait des convictions féministes, mais qui connaissait pas du tout le concept de féminisme. Et donc c'était assez intéressant de se dire, c'est un thème qui devrait être connu de tous, auquel on devrait tous faire attention. Enfin, le féminisme, c'est important, l'égalité entre les hommes et les femmes. Démonter les stéréotypes, c'est toujours... c'est toujours important aujourd'hui. Et en fait, dans la réalité, c'est un combat. C'est pas parce qu'on n'est pas féministe, mais on connaît pas ce combat, on connaît pas ce terme, et on sait pas quoi mettre derrière. Et en tout cas, pour certaines parties de la population. Et on voudrait justement étendre ce combat aussi aux gens qui vivent la pauvreté. Et encore une fois, y a des gens qui défendent des positions féministes parmi les personnes qui vivent la pauvreté, mais qui ne connaissent pas le concept.
D'où le fait que c'était super intéressant ces 4 jours pour expliquer tout ça et en apprendre chacun les uns des autres de ce qu'on a comme conviction, quoi.
Et donc vous, de votre côté, sur vos 4 jours, donc, qu'avez-vous préparé? Comment avez-vous fait pour tout préparer en 4 jours?
Du coup, c'était 4 journées qui se sont espacées sur la fin du mois de juin et le mois de juillet, et où au fur et à mesure, on essayait aussi d'abord, avant de se lancer dans la création de notre stand, aussi d'apprendre à se connaître l'un l'autre sur cette thématique et donc apprendre des moments... entre nanas, entre mecs, à avoir des moments de réflexion, etc. Donc ça a quand même demandé du temps, de la confiance, et au final, le résultat, il est super, moi, je trouve.
Mmh. Un truc très amusant, en fait, c'est qu'il y a une personne de notre association qui a un peu regardé des tweets de Donald Trump pour expliquer un peu, en fait, les 3 types de domination. Donc la domination des riches sur les pauvres, par exemple, la domination des hommes sur les femmes, et l'autre type de domination, c'était...
Domination économique.
Oui, ça tu l'as déjà parlé.
Domination masculine.
Et domination...
Je me souviens plus de la troisième.
Un autre type de domination.
Ouais. Bref, 3 types de domination que Donald Trump exerce super bien.
En fait, à travers ses tweets, il disait des trucs horribles et ça nous a aidé un peu à déconstruire tout un tas de choses horribles qu'on pouvait dire. Par exemple, il disait dans son gouvernement, moi j'aime bien les riches et les pauvres, mais dans mon gouvernement des États-Unis, je veux pas de pauvres. Voilà.
Et la domination, je crois que c'était en lien avec le racisme, non?
C'était
domination en lien avec le racisme. Donc c'était ces 3 types de domination-là, mm-hmm. où il a repris des phrases.
Oui, c'est ça.
Et donc elles sont sur notre stand.
Mm-hmm. Oh.
Et donc vous, de votre côté, dans les reçus, dans les témoignages que les militants et les militantes vous ont rendus, d'après ce que vous avez entendu, d'après vous, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui a été le plus compliqué au niveau de la précarité, que ce soit plutôt pour vous de vos reçus? Est-ce que la précarité était plus compliquée pour des femmes ou pour des hommes?
Encore une fois, tout le monde est bienvenu dans notre association. Et l'idée, c'est pas tellement de s'intéresser à cette question, est-ce que les femmes ont plus difficile ou les hommes ont plus difficile. Ce que les gens nous disent quand ils participent à nos réunions, c'est qu'en fait ils pensaient qu'ils étaient tout seuls dans la précarité, et quand on voit le regard de la société, c'est pareil pour tout le monde, c'est horrible, on n'est pas fier de sa situation, et dans la presse on dit c'est de la faute des gens qui n'ont pas de travail, c'est de leur faute, s'ils se bougeaient le cul, à la limite, désolé pour l'expression, ils trouveraient. Et de voir et d'entendre des gens qui témoignent de situations parfois plus difficiles que ce qu'ils vivent, ça fait en sorte que je ne suis pas tout seul. Et surtout, s'il y en a tellement d'autres que moi qui vivent des situations difficiles, ce n'est pas de ma faute. C'est un problème de société et c'est la responsabilité de la société, c'est la responsabilité de tous que de changer la situation. Et donc, dans l'idée que c'est important que... on a tous un rôle à jouer pour lutter contre la misère.
Ouais, et moi, quelque chose qui m'a quand même fort touchée quand je suis arrivée à ATD aux cellules, c'est du coup cette solidarité qui se crée entre les militants et les militantes, où il y a cette prise de conscience qu'on n'est pas tout seul, un peu cette déculpabilisation aussi, et d'être tout le temps dans « c'est de ma faute ». Alors là, c'est quelque chose de collectif où on discute de manière plus collective des problèmes collectifs qui se passent. Et donc, il se crée vraiment une chouette solidarité entre les militants qui s'entraident. Et donc ça, c'est aussi super important et c'est chouette.
Mmh. Et il y a aussi, enfin, ce qui est important pour nous, l'entraide par rapport à la prise de parole, en fait. Quand une personne arrive dans une réunion où parfois il y a 80 personnes, hein, les universités populaires, où on témoigne de ce qu'on a préparé en petits groupes locaux, c'est extrêmement compliqué, enfin, pour n'importe qui, de parler en public dans une salle où il y a 80 personnes, parfois même plus. Et ça prend du temps. Et il y a cette idée que, même si les gens prennent du temps pour rassembler leurs idées, tout le monde écoute et on prend le temps de s'écouter, on prend le temps de former ses idées parce que on se rend compte quand on travaille à TD Quart-Monde et aussi avec les gens que pour des personnes qui vivent dans la précarité, on leur demande rarement leur avis. Et donc ils doivent travailler sur certaines questions et aussi ils ont l'impression d'avoir rien à dire alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Il y a des gens, moi j'ai vu la première réunion, on leur tendait le micro, ils tremblaient de la main, ils n'arrivaient pas à formuler des phrases complètes, ils avaient peur, en gros, ça doit être ça. Et du coup, au fil des réunions, j'avais l'impression d'avoir affaire à un politicien, à un tribun, quoi, quelqu'un qui disait mais non, il faut agir, c'est terrible. Et donc, c'est aussi dans leur façon de témoigner de leur situation et aussi il y a des gens qui nous disent grâce à vous j'ai appris à pas me laisser faire, voilà, parce que quand on est devant un travailleur social ou qu'on est devant quelqu'un de l'administration publique, si on n'arrive pas à se défendre, si on n'arrive pas à trouver les mots, si on n'arrive pas à décrire sa situation parce qu'on pense que on a peur de parler parce que on a du mal à parfois bêtement ouvrir la bouche parce que c'est compliqué de trouver les mots et d'être entendu. Et donc c'est important aussi par ce travail-là de créer la confiance et que les gens se sentent vraiment dans un environnement où ils peuvent apprendre à prendre la parole et vraiment parler de leur situation. Et ça prend beaucoup de temps, mais on y arrive.
Donc, si je comprends bien, avec votre association, c'est plutôt les gens qui viennent vers vous que vous qui allez vers les gens.
C'est un peu les deux, je dirais. Ou...
Oui, en tout cas, les témoignages que j'ai entendus, c'est que en fait, les personnes qui vivent la pauvreté, souvent, ils nous disent, j'avais envie d'un endroit comme ça où je pouvais témoigner de ce que je vis. Et donc, y a plusieurs façons qui font en sorte que les gens ils arrivent chez nous, mais souvent ce qu'on remarque, c'est que à leur petit niveau, parfois ils étaient déjà extrêmement militants. Quand on a des mères de famille essayent de se débrouiller, et parfois même des pères qui ont tellement de difficultés et qui malgré tout continuent à se battre, je pense que parfois on a beaucoup plus à apprendre d'eux que eux de nous, et c'est vraiment l'objectif de l'association, c'est de changer le regard sur la pauvreté et sur les gens qui la vivent en se rendant compte que oui, ils ont des choses hyper importantes à dire, que ces choses, elles sont vraiment...
capitales.
C'est ça, oui.
Mmh, ouais.
Et donc, je dirais que, je vais pas revenir sur le fait que c'est des gens, des alliés qui trouvent des personnes dans leur milieu et qui essayent de discuter des sujets et des témoignages qu'ils entendent, ou parfois des gens qui vivent la pauvreté et qui nous disent là il y a des gens qui seraient intéressés, je connais des gens. Et souvent ce qui me frappe, c'est que en fait les personnes avec lesquelles on travaille, dont on récolte des témoignages, sur lesquelles avec lesquels on émet des recommandations, ils nous disent parfois moi je suis pas pauvre, tout simplement parce qu'ils connaissent des gens qui ont la vie encore plus dure. Et donc c'est vraiment un des objectifs de notre situation, c'est d'aller chercher ceux qui manquent encore, donc d'aller chercher à chaque fois les gens qui sont les plus démunis, les plus éloignés de l'emploi, les plus éloignés de l'éducation, et qui soient vraiment nos guides dans nos actions. C'est eux qui décident ce qu'on fait.
Nous allons nous passer un petit morceau de musique. Donc c'est Happy de Pharrell Williams.
About to say, so
Donc, nous sommes sur la dernière partie de l'émission. Alors, si vous entendez quelques basses, c'est le concert qui a commencé à 16h45 de Lineker et Os Carmelo. Donc, je ne sais pas trop quel est son style de musique, mais bon.
On va le découvrir.
On le découvrira, je pense,
ah bah voilà.
Un petit peu comme là maintenant.
Ouais.
J'avais une idée. À fond, la musique, je ne l'ai plus. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ?
Non.
Moi, j'ai plus quelque chose que je voulais faire part, c'est qu'on s'est rendu compte que dans la préparation du festival et de la thématique, c'était quand même une thématique qui n'était pas toujours si facile à comprendre, parce que parfois, elle n'est pas hyper accessible, ou on ne la rend pas spécialement accessible. Et par exemple, on avait eu une journée où on s'est tous rencontrés avec les différentes associations qui allaient sur le village des possibles, et où c'était vraiment... Des explications et des débats qui étaient super intellectuels, pas faciles à comprendre, avec des thématiques et des termes hyper compliqués, et donc pas tellement accessibles, et donc peut-être un peu exclusifs. Et donc on s'était dit, punaise, si on avait eu des militants avec nous qui sont pas spécialement hyper au clair avec ça, ça aurait été super, super violent au final. Et donc c'était vraiment l'idée aussi d'essayer de vulgariser un peu ça et de rendre ça accessible, ce qu'on essaie vraiment de faire sur notre stand, mais que, ouais, qui est pas toujours, que tout le monde ne fait pas toujours d'emblée, et qui du coup peut paraître un peu exclusif et juste pour les bobos blancs universitaires. Enfin, et donc, voilà, c'était un peu la constatation qu'on s'était faite, où il fallait essayer d'élargir et de pouvoir rendre ça vraiment accessible, quoi.
Mmh. Mmh. Et ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que, on le sait, parfois, on ne met pas les mêmes choses derrière les mêmes mots. Et le féminisme, c'est particulièrement le genre de sujet où ça peut arriver. Et donc, c'était intéressant de voir que, justement, il y a des mots comme le féminisme qui sont tellement larges. Enfin, c'est quand même, moi, je dirais les féminismes, parce que c'est des revendications qui sont parfois très différentes, voire contradictoires. Et c'était d'autant plus compliqué à expliquer à tous nos militants et tous les gens avec lesquels on a travaillé le thème. Qu'il soit riche ou pauvre, qu'il ait fait des études ou pas, enfin, c'était très riche du coup dans les discussions, parce qu'on devait à chaque fois veiller à ce que tout le monde se comprenne bien. On a une technique qu'on utilise à Télécarmonde assez régulièrement, c'est on s'écoute et on pose la question à une autre personne qui a écouté celle qui vient de parler, en disant est-ce que tu peux réexpliquer avec tes mots ce que tu viens d'entendre. Et souvent ça marche, mais parfois on a la personne qui dit non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, du coup il faut recommencer. Et ça prend du temps, mais c'est très intéressant à vivre et à entendre, et c'est une manière de travailler qu'on utilise régulièrement.
Mais est-ce que vous avez déjà eu dans Thérèse Belle parfois des problèmes entre militants ou entre vous et les militants ?
Moi, ça fait pas longtemps que je suis là, donc j'ai jamais eu de problème en soi avec qui que ce soit. Je sais pas si...
T'as quand même une petite expérience dans le groupe local
De conflit? Pas du tout.
Justement.
franchement, je réfléchis, non, absolument pas. J'ai été assez bien accueillie, franchement, assez rapidement. Je m'attendais pas à un accueil finalement aussi chaleureux, mais où malgré tout, on sent que ça prend du temps et que il y a cette question de confiance, quoi. Le fait qu'on soit dans une cellule ou même à ATD, mais que les militants et même les alliés se rendent compte qu'on est là, qu'on revient et qu'on peut compter sur nous, c'est quelque chose de super important et qui en dit long sur nous et notre engagement et du coup sur les relations qu'on peut créer avec toute personne à ATD, quoi. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est important, cette continuité dans mon engagement, quoi.
Mmh. Et concrètement, l'idée qu'on a besoin de tout le monde, je veux dire, du coup, tout le monde est le bienvenu, parce que c'est justement ce qu'on veut. Et je pense que toutes les personnes qui vivent le mouvement, bah, comme ils sont confrontés à des situations qu'ils ne connaissent pas, bah, c'est d'autant plus intéressant. Et du coup, c'est important, justement, qu'il y ait cette mixité, mais toujours l'idée que bah, voilà, c'est la vie des personnes qui vivent la pauvreté qui doit être le cœur de nos discussions. Et quand je dis la vie, ça peut être AVIS ou VIE, quoi. C'est ça qui est important. Et je pense que moi, en tant qu'animateur de cette association, je dois dire que parfois, je vis des moments où je me dis, mais ben, si je me mets un peu à la place des gens qui me témoignent de situations très difficiles, finalement, à leur place, j'aurais autant de mal à me sortir de la situation dans laquelle je suis. Et donc, ça remet un peu en perspective cette idée que ben, voilà, c'est de la faute des gens s'ils sont là où ils sont. Je veux dire, on peut très facilement tomber dans la pauvreté. Et si on n'a personne qui nous soutient et qui nous rappelle qu'on n'est pas plus con qu'un autre et qu'on peut sortir de ça, ben c'est difficile d'avoir confiance déjà en d'autres personnes, et c'est difficile de s'en sortir. D'où l'idée que ben voilà, si on les rassemble, si on rassemble des gens et qu'ils témoignent tous de situations très difficiles, mais parfois bon, il y en a qui s'en sortent, il y en a qui trouvent des astuces, mais c'est cette idée que ben, finalement... le fait qu'ils se connaissent et qu'ils se rencontrent et qu'ils discutent de leur situation, ça permet de démontrer que c'est pas de leur faute. Je veux dire, c'est vraiment des situations difficiles, mais qui sont pas normales et qui doivent changer au niveau des lois du gouvernement. Et je dirais le problème en Belgique en général, et dans d'autres pays, hein, c'est que le droit, il existe, mais parfois, quand on vit dans la précarité, il est très mal appliqué.
Oui, il n'est pas effectif.
Donc, ce n'est pas des statistiques, très reluisantes, mais on avait lu un résumé d'un bouquin qui était paru en France sur 425 affaires de viol, où l'avocate qui avait écrit ce bouquin disait on condamne que les pauvres. Parce que sur les 425 affaires, il y avait 93% des personnes qui ont été condamnées qui étaient de milieux populaires. Donc, est-ce que ça veut pas... Enfin, du coup, c'est des choses dont on parle dans la presse, etc. Donc, ça renforce certains préjugés, alors que le problème, c'est que... c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des affaires de harcèlement dans d'autres milieux que les milieux pauvres. Mais voilà, on condamne que les pauvres. Et donc, c'est un exemple comme ça, c'est une image, mais ça permet de un peu parler du fait que parfois le droit il est appliqué différemment selon qu'on soit dans la précarité ou pas. Et donc voilà, c'est important que les gens connaissent leurs droits et qu'ils les fassent, qu'ils fassent en sorte qu'ils soient respectés.
Eh bien, merci beaucoup pour cette émission.
Merci.
Alors, nous vous rappelons que vous venez bien de l'ASBL ATT Carmonde, donc au village des possibles, devant l'entrée du village des possibles. Alors, nous allons vous laisser avec une dernière chanson, donc Stronger de Kanye West, et après, nous vous laisserons avec le blog suivant, donc Salope.
Au revoir.
Much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask this, I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel. Homie, take six and take this, haters.
That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya.
Me like right now. I don't know if you got a man or not, if you made plans or not, if God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot, but I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night, so we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a blind. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it
better, faster, stronger. Oh, that don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Like I never told ya. Don't act like I 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 told ya. Baby, you're making it
better, faster, stronger.
That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya.
I need you right now. I need you right now.
You know how long I've been on ya. Since Prince's on Apollonia. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya. Since Prince was on Apollonia. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya.
Radio Esperanza.
L'émission des jeunes.
Tous les jours de 16h à 17h.